Le docteur Takashi Naga est vraiment un des grands témoins de la foi. Et il a été témoin aussi de l'explosion atomique du 9 août 1945 à Nagasaki. Il en est d'ailleurs mort après quelque temps, dans des douleurs terribles, et avec un courage exemplaire. C'est un très grand médecin, et à mon avis, l'un des plus grands médecins de ce siècle pour ce qui est de son courage. C'était un radiologiste. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. On a souvent entendu parler du docteur Takashi Naga. Je lui avais déjà consacré quelques minutes dans une de mes émissions. Et d'ailleurs, l'émission d'aujourd'hui termine 2 ans d'émission. J'entreprends demain la 3e année. Et voici donc qu'en 1925, les gens de Nagasaki, dans le faubourg d'Urakami, Urakami, c'est là où est tombée vraiment la bombe atomique, n'est-ce pas? Alors, en 1925, un bienfaiteur belge avait offert 2 cloches à l'église catholique d'Urakami, en ce faubourg de Nagasaki, et puis par un temps de pluie, comme par grand vent, évidemment, mais leur son, des fois, annonçait aux fidèles l'heure des messes chaque jour, et puis il y avait la joie de l'Angélus qui retentissait dans tout ça, mais aussi parfois les tristesses des funérailles, et puis il s'en est rendu compte, lui, cet homme, quand il était jeune. Est survenu le fameux bombardement atomique d'août 1945, 20 ans plus tard. Tout a été détruit, mais on a dégagé les 2 cloches, et l'une d'elles, par miracle, était demeurée intacte. Alors, le 24 décembre 1945, sur l'emplacement où était l'église, quelques fidèles japonais catholiques, là, ont échafaudé des madriers, puis le docteur Nagai, à leur tête, se sont mis à tirer en cadence sur des chaînes, puis ils ont relevé la cloche. Et ce soir-là, ce soir de Noël, eh bien, sur ces champs brûlés par la bombe atomique, on a entendu le son de la cloche de Noël qui a retenti de nouveau. Et dans sa hutte, lui, une petite hutte, parce que tout était détruit, une hutte de 7 mètres carrés, c'est rien du tout, hein, sous un toit de tôle ondulée qui, la pluie passait là-dedans, ben, ce fameux docteur Nagai, qui avait été brûlé, qui était très malade par cette bombe, entend chaque jour le son de cette cloche. Le corps rongé par la maladie, il y a ses 2 enfants orphelins à ses côtés, car sa femme est morte dans cette catastrophe. Il se voit ramener 12 ans en arrière, 12 ans en arrière, oui, vers 1933. Et c'est bien la même cloche qui l'avait converti du matérialisme, de l'athéisme, à la foi catholique. Il aimera cette cloche, évidemment, jusqu'à sa mort. Takashi Nagai. Takashi, c'est T-A-K-A-S-H-I. Takashi, tout simplement. Et Nagai, N-A-G-A-I, tréma. Il est né en 1908. Dans une région du Japon, à Izumo, c'est une terre sacrée de la mythologie japonaise. Puis il ignore tout du catholicisme. C'est un indifférent, même au shintoïsme, qui est la religion du Japon, comme vous savez. Il a acquis dans sa famille une très forte personnalité typiquement japonaise. Vous savez, ce courage-là, une passion pour les études. Hein, on en parle souvent des Japonais comme ça. C'est un peuple étonnant, extraordinaire. Son père est médecin. Sa mère l'aide aux besoins dans son travail. Elle a 5 enfants. Avec le vif désir de voir son aîné, Takashi, succéder à son père. Une fois terminé son école moyenne, là, Takashi entre à la faculté de médecine de Nagasaki. Il a 20 ans. Là, nous sommes en 1928. Le matérialisme scientiste, vous savez, le positivisme, le matérialisme, quoi, connaît la grande vogue au Japon. Et voici ce que raconte le docteur Nagai en se rappelant ces années-là. Il dit « Dès mes années d'humanité, bon, du long de collège classique si vous voulez, j'étais devenu prisonnier du matérialisme et à peine entré à la faculté de médecine, on m'a fait disséquer des cadavres. Et c'était là, me disait-on, tout ce qu'il y avait dans l'homme. J'en conclus aisément que l'homme n'était rien que matière. La merveilleuse structure de l'ensemble du corps, l'organisation minutieuse de ses moindres parties, tout cela suscitait mon admiration, mais ce qui me maniait, ce que je maniais ainsi, là, au bout de mes mains, ce n'était jamais que de la matière. Le corps ne se réduisait, en somme, n'est-ce pas qu'à la combinaison de ce qu'on appelle des corps simples, tels que l'oxygène, l'azote, le calcium, etc. Ça vaut pas cher, tout ça, hein? Quelques dollars. L'âme? On me disait que c'était un fantôme inventé par des imposteurs pour tromper les gens simples. Et cependant, le problème de la vie humaine le tourmente. Mais il écarte absolument de son esprit toute pensée spirituelle ou religieuse. Ça lui répugne. Mais là survient la mort subite de sa mère en 1930. Et ça va l'arracher à ses illusions. Durant les vacances du printemps, entre ma seconde et ma troisième année, écrit-il, troisième année d'université évidemment, ma mère fut frappée d'apoplexie. Lorsque j'accourais à son chevet, il lui restait encore un souffle, elle expira. Mais elle expira en me regardant avec insistance, et ce dernier regard de ma mère a bouleversé complètement mes opinions. Oh, ce regard muet, de celle qui m'avait enfanté, élevé et aimé jusqu'au bout. Et voici qu'au moment de la séparation, ce regard me disait infailliblement que son âme ne manquerait pas de se trouver aux côtés de son cher Takashi. Même après sa mort, je regardais dans ses yeux, moi qui avais nié l'existence de l'âme, et instinctivement je sentis que l'âme de ma mère existait réellement. Elle se séparait de son corps, mais ne périrait jamais. Et c'est alors que j'ai lu les pensées de Pascal. Je vous ai parlé beaucoup de Pascal le 22, là, il y a 8 jours. À coup sûr, ce que disait Pascal était la vérité. Et pourtant, je ne parvenais pas à la saisir, cette vérité, comme une authentique réalité. L'âme, l'éternité, Dieu. Et ce grand physicien, Pascal, il avait cru sérieusement, lui. Ce sage incomparable y croyait vraiment, alors qu'il était donc cette foi catholique, pour que le savant Pascal ait pu l'accepter sans contredire sa science. Il termine dans son texte, Takashi, le docteur Nagai, « C'est ainsi que ma curiosité, tout naturellement, fut attirée par le catholicisme. » Alors les yeux du docteur Nagai, fixés là, jusqu'ici sur la table de dissection, là, commençait à percevoir autre chose. Et le docteur Takashi Nagai change de pension. Il va habiter ailleurs. Il loue une chambre, et c'est merveilleux, dans la famille Moriyama. Le père, M. Moriyama, descend d'une de ces vieilles lignées catholiques qui, à travers 250 ans de persécution, sans prêtre, sans secours de la religion, comme on dit, ont conservé la foi apporté par saint François Xavier, la pureté de cette foi chrétienne, que rien n'a pu faire fléchir, ça étonne le jeune Nagais. Chaque midi, avant le dîner, au son des cloches, cette famille Moriyama récite l'Angélus. Puis lui, de sa chambre à l'étage, il peut entendre la voix grave du père. L'Angélus terminé, le jeune docteur Nagai descend dîner à la table de famille. Et M. Moriyama fait le commerce des bœufs, lui. Hein? À côté de sa maison se trouve donc une grande étable. Mais ces bœufs, ça le fait réfléchir, lui. Lui qui ignore tout du but de la vie humaine puis du sens de la vie. Est-ce qu'il ressemble pas à ces bœufs, finalement? Ou plutôt, lui qui cherche à tâtons son chemin. Est-ce qu'il n'est pas bien plus à plaindre qu'un bœuf qui rumine paisiblement? Parce que Blaise Pascal, avec sa profonde intelligence, lui, il a trouvé la pleine lumière dans la foi chrétienne. Ici, de simples gens puisent dans la même foi leur raison de vivre dans cette maison. D'humbles fermiers, lui, enseignent ce qu'a cru un savant de génie comme Pascal. Alors il y a une lumière qui jaillit dans son cœur. En mars 1932, c'est la cérémonie de la remise des grades. Alors Nagai est désigné pour prononcer le discours de circonstance. Mais un refroidissement le jette brusquement au lit. Il a une otite qui menace bientôt de tourner la méningite. Il y a une brave femme qu'il soigne. C'est une vraie mère pour lui. Mais elle est aussi chrétienne, elle. Elle est catholique. Elle veille à côté du lit. Elle égrène son chapelet. Takashi Naga est guéri comme par miracle. Alors là, la méningite ne se déclare pas, heureusement, mais il semble bien que son oreille droite est condamnée. Alors ça porte un coup fatal à son avenir de médecin. Ce pauvre étudiant en médecine est découragé. Il ne pourra plus se servir du stéthoscope. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller renoncer à la médecine interne. Alors il décide de se lancer en radiologie, dans la médecine radiologique, comme on dit. Puis en février 1933, l'année suivante, un an plus tard, un incident terrible. C'est la Mandchourie, la guerre. Le docteur Nagai est enrôlé dans le 11e régiment d'infanterie de Nagasaki, puis il participe à l'expédition. Le père de la famille Moriyama meurt durant son absence. Et dans un colis qu'elle envoie au jeune docteur Nagai, la jeune fille Midori, jeune fille de la famille, glisse un petit catéchisme. Oui, un petit catéchisme. Alors, Takashi Nagai revient de Mandchourie après un an, puis reprend son travail au rayon X. Mais entre-temps, il s'est décidé. Il va voir le vieux curé de Urakami, là, le faubourg où il y a beaucoup de catholiques, pour lui demander le baptême. Le bon curé, très gentiment, l'envoie prendre le catéchisme chez le vicaire. Mais Takashi Nagai, lui, il a lu le catéchisme, il sait déjà tout cela. Il l'a bien reçu, le catéchisme là-bas en Mandchourie. Puis les horreurs de la guerre ont achevé de l'éclairer aussi. Ça l'a fait réfléchir. Puis en juin, bien, il reçoit donc le baptême dans l'église catholique sous le nom de Paul. Il sera vraiment un vrai saint Paul. 2 mois plus tard, il épouse, vous le devinez, cette chère Midori Moriyama, celle qui lui avait envoyé le catéchisme. Il a 26 ans. Il a 26 ans. Et dès lors, Nagai se consacre jusqu'à sa mort, corps et âme, au développement de la médecine radiologique. Il publie une dizaine de communications scientifiques. Il organise des conférences hebdomadaires pour médecins. Il soigne les pauvres de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Le fondateur de la Société Saint-Vincent-de-Paul, Frédéric Ozanam, va être béatifié bientôt. Je vais lui consacrer une émission spéciale. Et pour chacun d'eux, pour chacun des pauvres, il a un mot d'encouragement. Il écrit, à un moment donné, c'est très beau, sur la tâche du médecin. Écoutez bien ça, je dédie cette émission à tous mes amis médecins, au docteur Noël, au docteur Ayoub, etc. La tâche du médecin est de souffrir et de se réjouir avec ses patients. S'ingénier à diminuer les souffrances comme si elles étaient les siennes mêmes. Il faut sympathiser avec leur douleur, n'est-ce pas? Toutefois, en fin de compte, ce n'est pas le médecin qui guérit le malade, mais le bon plaisir de Dieu. Une fois qu'on a compris cela, le diagnostic médical tourne à la prière. Alors, en juillet 1937, il y a un incident de Chine, c'est un nouvel appel sous les armes, et cette fois, il est médecin-chef du 5e corps sanitaire, et durant 3 ans, il va parcourir le nord, le centre et le sud de la Chine, c'est immense. Il soigne tous les blessés qu'il rencontre, qu'ils soient japonais ou chinois, militaires ou civils. Puis en mars 1940, il rentre enfin au foyer auprès de sa femme et de ses 2 enfants. Il a un garçon, Makoto, et une petite fille, Kayano. Et on le nomme professeur adjoint du département Röntgen de radiologie. Il a 32 ans. Notre docteur Nagai, qui à mon avis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on attend pour le canoniser, c'est un saint, un grand saint à mon avis. Enfin, la guerre de Chine se prolonge donc, et les gens n'ont pas assez à manger finalement. Il y a un affaiblissement général de la population, il y a des ravages de plus en plus étendus causés par la tuberculose. Alors, il y a beaucoup de patients. Et puis, il faut faire des examens radiographiques collectifs. Hein. Alors, des groupes d'écoliers, d'ouvriers qui ne cessent de défiler devant le docteur Nagai, qui est radiologiste, hein, je vous le rappelle. Rayon X. Et pendant ce temps, les opérateurs, eux, sont rappelés sous les drapeaux, les uns après les autres, pour la guerre avec la Chine. Et le docteur Nagai se trouve bientôt seul avec une infirmière. Et à cause de la pénurie de films, on pratique la radiographie indirecte. Ça occasionne, c'est une dispersion d'un grand nombre de rayons. Et le corps du docteur Nagai en capte une telle quantité que sa santé, finalement, décline à vue d'œil. Et en plus de ce travail épuisant, il y a d'autres charges qu'il doit assumer à l'hôpital. Puis dans la défense anti-aérienne passive aussi, puis ça achève de l'écraser. Et pour se rendre compte évidemment de son état, il suffit de le voir retourner chez lui en s'appuyant sur un bâton de bambou, en bon japonais. Le matin de juin 1945, avant que n'arrive la foule des patients, il va en avoir le cœur net. Alors il dit à son aide, préparez l'appareil. Son aide lui dit, mais docteur, aucun patient n'est encore arrivé. Alors il montre sa poitrine, puis il dit, le patient, le voici. Alors l'assistant dit, quoi, le médecin? Et puis, il désigne ses yeux en disant, le voilà. Et à la vue de son propre corps éclairé par les rayons, le docteur Takashi Nagai a eu un sursaut et sur la moitié gauche figure une large plage noire, la rate, oui la rate, une rate de dimension démesurée qui comprime son cœur, son estomac et ses intestins. C'est l'hypertrophie de la rate, c'est la leucémie. En un éclair, docteur Nagai se revoit en Allemagne, à Hambourg. Dans le jardin de l'hôpital Saint-Georges, hein, c'est intéressant, dans ce jardin, il y a une pierre commémorative. C'est écrit sur la pierre en allemand, « Victime de leur étude des rayons X, John Edwards, Albert Schoenberg et Lombard. » Alors il murmure une prière et il dit, « Seigneur, je ne suis qu'un serviteur inutile, qu'il me soit fait selon votre volonté. » Alors la paix de l'âme lui revient tout doucement, puis il appelle tous les opérateurs et assistants, puis il dit, regardez bien, voici une maladie qu'on ne rencontre pas souvent, c'est la leucémie. Alors il demande le diagnostic du docteur Kajura, chef du département de médecine interne, et le diagnostic c'est globule blanc 108 000, globule rouge 3 millions, leucémie chronique, durée à vivre 3 ans. Il lui reste 3 ans. Le diagnostic du docteur Kajura et le sien concordent tout à fait. Alors, le 9 août 1945, vous souvenez-vous, les gens plus âgés de cette date, 11h02 le matin, un éclair aveuglant, une température de 9000 degrés centigrades, 9000 degrés centigrades, et sous un souffle de 2 km à la seconde, le faubourg d'Urakami, ce quartier nord-ouest de Nagasaki, ce quartier catholique est détruit et flambe. Je fais un aparté. Vous savez que Nagasaki a reçu cette bombe là où il y avait beaucoup de catholiques. Et l'autre bombe est tombée aussi sur une population catholique. C'est étrange. Dans ce pays où il y en a si peu. Pourquoi? Comment se fait-il? On n'a jamais donné d'explication. Je l'ai demandé souvent, je n'en ai pas reçu. Alors les corps des passants, des Japonais, comme ça, gisent carbonisés sur la route. Les autres habitants sont réduits en cendres, sous leurs maisons, brûlées. 30 000 morts, 100 000 blessés. Sur les 10 000 catholiques d'Urakami, 8 500 sont morts. 8 500, il n'en reste que 1 500. D'une école de 1 800 enfants, il n'en reste que 200 petits-enfants catholiques. L'université de médecine, située à 700 mètres du centre de l'explosion, puis bâtie en béton armé, a échappé à la première destruction. Mais elle va être incendiée. Le docteur Nagai, qui classe des films radiographiques au moment de l'explosion, est projeté sur le plancher, le côté droit criblé d'éclats de verre. Le sang coule abondamment de sa tempe droite. Et lentement, il se dégage de l'amoncellement de débris et descend l'escalier. Et de la salle de consultation et du corridor où attendent les patients, on entend venir des appels. Alors le docteur Nagai dit « Oui, on arrive, ça va. » Tout en pressant de sa main la tempe, sa tempe droite blessée, hein, pour empêcher le sang de sortir. Et les soins commencent. Des chemises déchirées servent de bandage. Le docteur Nagai serre sa tempe de la main droite, puis travaille de la gauche. Parfois, absorbé par le soin d'un patient, il relâche sa pression, puis le sang jaillit, sa tache de rouge, les vêtements de l'infirmière qui travaille à sa droite. Il dit, puisque les vaisseaux de la tempe sont étroits, j'ai pu bien tenir durant 3 heures. Cela suffira à donner les premiers soins. Quel héroïsme, il va jusqu'au bout, hein. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme aussi courageux? C'est phénoménal. Et tout en travaillant, il se tâte de temps en temps le pouls. Il mesure ce qui lui reste de force. Alors la vallée de Urakami, ce faubourg, se transforme bientôt en fournaise. Par la porte de l'hôpital accourt un flot ininterrompu de blessés. Des silhouettes sanglantes, les vêtements arrachés, les cheveux brûlés. Des enfants traînent les cadavres de leurs parents. De jeunes mamans tiennent embrasser le corps décapité de leur bébé. C'est une vision d'enfer et la plupart des médicaments ont été mis hors d'usage. Il ne reste qu'un peu de matériel pour premiers soins. Des milliers de blessés attendent. Le docteur Nagai dispose seulement de quelques aides. Mais il dit qu'il va soigner jusqu'au bout de ses forces. Quel courage! Alors l'incendie augmente. C'est très violent et bientôt l'hôpital lui-même est en danger. Alors on se met à évacuer les patients vers le sommet d'une colline voisine. Il porte 2 blessés. Il donne la main à 1/3. Mais pauvre docteur Nagai sent que ses forces sont rendues au bout. L'infirmière-chef, Mademoiselle Isamatsu, elle remarque, « Mais docteur, vous êtes blanc. Reposez-vous un instant. » Et il lui répond, « Ne me faites pas peur. » Et il lui dit, la regarde, elle a le visage noir couverte de suie, puis lui dit, en souriant, il dit, « Vous êtes noir comme une négresse. » Mais entre-temps, il se tâte le pouls, lui, de fait, puis il se rend compte que son cœur ne bat plus que très faiblement. À 4 heures de l'après-midi, le feu s'attaque au département Röntgen, là où il y a la radiologie. 13 années de recherche radiologique, des échantillons assemblés à grand-peine, des instruments mis au point longueur d'année, tout cela s'en va maintenant fumer. Quand on lui avait dit « Leucémie, 3 ans à vivre », il avait décidé d'employer ce peu de temps à rassembler de la documentation pour recherche scientifique. Et voici que tout se consume. Et à côté de lui, ses aides et ses infirmières, les larmes aux yeux, regardent fixement cette fumée. Et il murmure « C'est la fin de tout ». Puis, il va faire son rapport au directeur de l'hôpital. Et il dit « Tous les patients ont été évacués ». Il est content. Le rapport fourni, à peine a-t-il fait 20 pas, qu'il se sent pris de vertige et près de là, dans un champ, une de ses aides dort épuisée, il la couvre de son manteau. C'est admirable, comme Saint-Martin de Tours. En court 6 pas, il s'effondre, sans connaissance. Une douleur cuisante le fait revenir à lui. On essaie de fermer la plaie de sa tempe. L'opération s'avère trop difficile, mais elle réussit. Aussitôt, la douleur diminue. Le 10 et le 11 août de cette même année 1945, c'est-à-dire le lendemain, le surlendemain de la bombe, se passe à soigner les blessés. La besogne se fait enfin un peu moins pressante et le docteur Nagai se rend chez le directeur puis il obtient la permission de retourner chez lui. Chez lui, il passe devant l'église. Elle est brûlée. Et plus loin, son quartier est entièrement carbonisé et sa maison. Il ne reste que des cendres. Il fouille ça et là. Et voici l'endroit de la cuisine, des débris de vaisselle, pas côté quelques fragments d'os, encore tièdes. C'est tout ce qui reste. Tout ce qui reste de sa chère épouse, Midori. Vous parlez de la grande célébration de dimanche prochain. Je signale qu'à 10 heures le matin, je serai en onde directement de Radio Ville-Marie, en studio là-bas. Et ça me fera plaisir de vous entretenir pendant 1 heure et de vous aider à nous aider. Je dédie cette émission à tous les médecins. les infirmières, les gens qui sont pleins de dévouement pour nous, qui ont besoin souvent de modèles pour s'encourager, soulever leur cœur un peu. Alors là, il a trouvé dans les restes de sa maison, détruite par la bombe atomique, les ossements de sa femme, Midori, mère de ses deux enfants. Tout près des eaux, il trouve enfouis dans les cendres les grains de verre et la chaîne d'un chapelet fondus ensemble. Cette nuit-là, il la passe, seul le docteur Takashinaga, et seul, dans la tranchée à bris, serrant contre son cœur les reliques de sa femme. Le 12 août, donc 3 jours après la bombe, le 12 août au matin, il y a une brise qui souffle sur cette terre déchirée. Déchirée par qui? C'est pas par Dieu, c'est pas Dieu, c'est par le péché des hommes, la cruauté qui nous habite. À genoux, le chapelet fondu entre les doigts, Takashinaga prie. Il prie pour les 30 000 victimes, dont tant de catholiques. Puis il enterre les restes de sa femme, Midori, et appuyé sur un bâton, il se met en route pour Mitsuyama, ce village situé à 8 kilomètres de là, où sont réfugiés sa belle-mère puis ses deux enfants. Kayano, 6 ans, et Makoto, 11 ans, dont je vous ai parlé tout à l'heure, accourent au bruit de la porte. Ils se trouvent brusquement face à leur père, mais leur père est couvert de taches de sang. Un instant, là, ils ont peur, ils reculent. Puis le petit garçon, qui a 11 ans, Makoto, instinctivement court derrière son père pour voir sa mère, mais sa mère n'y est pas. Elle est morte. Le village regorge de blessés évacués. Aux alentours aussi se dressent des huttes de branchages, c'est tout ce qu'ils ont. Il faut désinfecter les plaies. Il faut soigner à la hâte tout cela, ces pauvres plaies qui sont déjà enflammées. Il faut aller soigner les malheureux sur la place, et docteur Takashinaga n'hésite pas. Quel chrétien admirable. Mais en plus de la perte de sang, il y a les radiations de la bombe qui ont encore aggravé la leucémie du docteur Nagai. Ses forces déclinent chaque jour davantage. Le soir du 14, il doit être porté jusque chez lui. Le jour de l'Assomption, le 15 août, le docteur Nagai est à l'église pour y entendre la messe. Mais un passage de bombardiers ennemis force le prêtre à s'interrompre. Même dans cette petite église de montagne, on ne peut plus prier en paix. Ce jour-là, à midi, la radio transmet un message terrible. C'est le message de l'empereur du Japon, Hirohito, qui annonce la reddition. Ils ont perdu la guerre. Un professeur revient de la ville avec la nouvelle. Bien oui, c'est la défaite. Et le docteur Nagai, qui est bien japonais, pleure. Tout le monde autour de lui pleure. Ce sont des vrais japonais, quoi. On ne mange et on ne boit rien. On ne donne pas de consultation. Ni ce jour-là, ni le suivant, c'est plus possible. Quelques jours plus tard, la situation est devenue plus régulière. Le docteur Nagai renvoie les infirmières de son groupe de secours. Sa belle-mère s'inquiète. « Personne ne reste pour te soigner ?»« Au point où j'en suis, dit-il à sa belle-mère, les soins ne servent plus à rien. » Et de fait, tout son corps est enflé, en particulier son visage. La plaie de la tempe droite s'est de nouveau ouverte et la fièvre monte à 40 degrés, imaginez. Et des amis appellent le médecin et une infirmière, puis on essaie tout. On met des tampons, des fortifiants pour le cœur, des injections, rien n'y fait. Alors là, le docteur Takashinaga reçoit l'extrême onction. Les derniers sacrements, quoi. Le sacrement des malades, comme on dit aujourd'hui, parce qu'on le donne plus tôt, espérant une guérison. On a bien raison, d'ailleurs. Il dit « Je meurs content, je ne regrette rien et merci à vous tous ». Et sur ces paroles, il s'endort. Mais chose étrange, le lendemain matin, la plaie semble se refermer, puis le sang commence à se coaguler. Une semaine plus tard, c'est extraordinaire, la plaie est complètement cicatrisée. Docteur Nagai, qui ne peut encore se lever, il dit « Aussitôt que je pourrai marcher, je retourne à Urakami, là où la bombe est tombée. Le travail attend là-bas ». Alors on a prétendu que sur cette terre atomisée, hein, vous vous souvenez, hein, on disait que la vie ne pourra renaître avant 70 ans. Et tandis que les habitants craignent de revenir à Urakami, bien le docteur Nagai déclare « Moi, je vais y vivre le premier. » Parce qu'il n'y a rien à perdre au fond. Il est déjà mourant. Après 3 semaines, il observe une fourmilière, petite fourmi qui grouille. 30 jours après, il découvre un ver de terre. Il voit courir un rat d'égout. Bientôt, de la terre brûlée des champs sortent des pousses de pommes de terre sur lesquelles se développe même de la vermine. Alors, il dit, les hommes, eux aussi peuvent vivre ici. Il se bâtit un abri, donc, près de son ancienne maison. Quelques tôles posées sur un restant de mur que je vous ai décrit un peu au début de cette émission. Et au devant, 2 pierres qui forment un foyer de fortune au-dessus duquel pend un chaudron. À côté, une vieille bouteille. C'est sa réserve d'eau. Comme vêtement, un des uniformes de marins distribués par l'armée aux sinistrés. C'est la misère. Un jour qu'il reçoit un visiteur, le docteur Nagai lui dit « On est vraiment pauvres, n'est-ce pas ?» Mais aussitôt, il se repent d'avoir prononcé cette parole. Pourquoi ? Parce qu'afficher sa pauvreté, écoutez bien ça, afficher sa pauvreté ou se vanter de sa richesse, c'est pour lui la même chose. À quoi sert la pauvreté matérielle si le cœur est plein de désirs ? Est-ce là un exemple à donner à ses concitoyens? Alors, depuis ce jour, on n'a jamais pu entendre le docteur Nagai parler de sa pauvreté. La faculté de médecine, dont les bâtiments ont été détruits, se réinstalle en 3 endroits différents. Le docteur Nagai, qui, de professeur assistant, a été promu professeur, se voit aussi obligé à des déplacements fréquents. Hein. Mais là, il prend un train, puis s'il y a les chaos du train, ça le fait terriblement souffrir, mais ça ne le décide pas à cesser ses déplacements. Non. Dans le train, dit-il, toute mon attention va à protéger mon ventre. On lui propose de loger à l'hôpital où il donnait la plupart de ses leçons, mais le docteur Nagai refuse catégoriquement. Il dit, je ne peux pas quitter Urakami. Je veux la reconstruire, cette petite ville, avec ses habitants. Me voyez-vous déjà entrer dans cette splendide pension quand ils vivent tous dans des baraques de tôle? Voyez donc, ici et là, les maisons surgissent. Quelle joie pour moi de voir ainsi ma ville se reconstruire. Alors il commence à évacuer les débris de sa maison. En fouillant les cendres au coin nord-ouest du terrain, il dit, je l'ai enfin découvert, ce crucifix. Qui appartenait à l'hôtel familial. Évidemment, la croix de bois avait péri dans le feu, mais le Christ de bronze, ajoute-t-il, demeurait intact, sans une déformation, sans une avarie. Tout m'a été enlevé, et ce crucifix seul, je l'ai retrouvé. En se traînant au fond du jardin, il découvre une fleur, et parmi un océan de tuiles brisées s'épanouit solitaire une gloire du matin. Devant cette splendeur bleu vif, j'ai envie de m'agenouiller, là, tout de suite, sur place, et, comme malgré moi, de remercier Dieu pour ce don magnifique, premier cadeau de sa bonté parmi ces ruines désolées. Un de ses cousins lui envoie une somme d'argent, mais le docteur Nagai la donne à un moine polonais qui rentre d'un camp de concentration pour qu'il puisse reconstruire son couvent. Il écrit un mois après, « Du monastère, heureusement ouvert, on m'a envoyé une Bible et une statue de la Sainte Vierge. Avec mon crucifix au mur, je n'ai besoin de rien de plus. Tout en priant pour mes bienfaiteurs, je me sens l'homme le plus riche de la terre. Imaginez, un médecin, un radiologiste, il a une Bible, une statue de la Sainte Vierge, un crucifix au mur, il n'a besoin de rien d'autre. Moi, ce médecin me plaît tellement, j'aurais tellement aimé le connaître. Oh, quel homme admirable! Au printemps de 1947, donc près de 2 ans après la bombe, il s'alite pour ne plus se relever. Il n'a que 38 ans. Sa charge de professeur, il a démissionné. Il se voit désormais privé de salaire. Mais comment vivre? Comment faire vivre ses enfants? Il dit, ma tête travaille encore, les yeux, les oreilles, les mains, les doigts sont encore bons, alors je peux écrire. Et le docteur Nagai se met à composer. Mes chers enfants, aimez, il écrit, mes chers enfants, aimez votre prochain comme vous-même. Voilà la parole que je vous laisse. C'est par elle que je commencerai cet écrit. C'est peut-être bien par elle que je conclurai, et encore par elle que je me résumerai. Et voilà ce qu'il écrit, ce cher docteur Nagai, en tête de « Mes chers enfants », un recueil de conseils à son garçon Makoto, à sa fille Kayano, qu'il doit bientôt quitter. Ce message, son seul exemple, pourrait suffire, au fond, à l'imprimer dans leur cœur. Toute l'existence de leur père n'a été qu'un service héroïque du prochain, hein? Un service qu'il conduirait aujourd'hui à la mort. Et ce service, Takashi Nagai veut y consacrer jusqu'à ses dernières heures. Alors, couché sur le dos, il écrit en tenant une planchette à dessin, telle qu'on en emploie là, chez les écoliers. Écrire dans ces conditions, c'est pas facile, hein? Même pour des gens valides, et on devine les efforts et la peine que cela lui demande. Il note, en me réveillant à 1 heure ce matin, la fièvre était tombée. Après avoir bu le café du thermos, j'ai pu écrire jusqu'à 7 heures du matin. Le travail a bien avancé. Il ne lui restera bientôt plus que la nuit pour écrire. Car dès le matin, les visiteurs s'annoncent. Le craquement des souliers de bois, vous savez, ils portent des souliers de bois au Japon, hein? Ça approche, là, puis il y a un bonjour qui est crié à la porte, et puis la cloison de papier, vous savez, c'est des cloisons de papier qu'ils ont dans ces maisons, glisse, là, puis un visage souriant qui apparaît. Alors le manuscrit auquel il travaille, bien, doit être livré sous peu, il faut finir vite, mais le docteur Nagai ne montre à son visiteur aucune impatience, pas du tout. Comme il écrit, cela m'ennuie. Mais puisque ses visiteurs ont la gentillesse de venir ici, est-ce que je dois pas tâcher de verser un peu de joie dans leur cœur et de leur parler de notre espérance catholique? Je ne peux pas les renvoyer. Quel grand catholique, hein? Dans les plus petites choses. Une autre fois, c'est la visite des élèves d'une école primaire. Ah, c'est très émouvant, hein? Vous auriez dû voir ça, dit-il, tout s'aligner devant moi. Le professeur me tournant le dos et fournissant les explications. Il dit, ce professeur, « Ici, c'est la fameuse hutte Amour du Prochain. » C'est le nom donné par Takashi Nagai à sa petite habitation en reconnaissance pour les charpentiers de Urakami qui lui en avaient fait le don. « Amour du Prochain. » Et le professeur continue pour parler à ses élèves. Il dit, « Cet homme, c'est le docteur Nagai. Regardez bien, n'est-ce pas ?» Et docteur Nagai ajoute, « J'ai bien l'impression d'être devenu une espèce d'ours de jardin zoologique. Mais après tout, puisque je consacre ma vie au service des hommes, du moment que je puis amuser les enfants en excursion, je veux bien être un ours de jardin zoologique ou tout autre chose. » Alors, le jour se passe ainsi à recevoir les visiteurs, et la nuit à écrire des livres. Le tout avec une fièvre qui dépasse habituellement 38 degrés. Ses forces déclinent. Il doit employer des crayons de plus en plus tendres pour pouvoir se faire lire. Parce qu'il peut plus peser, hein? Et c'est dans ces conditions qu'il publie en 4 ans. Combien de livres? 15 volumes, dont plusieurs best-sellers, plusieurs d'entre vous ont dû en lire, hein? Parce qu'ils ont fait sensation au Japon et certains d'entre eux dans le monde entier, hein? Le plus fameux d'entre eux, je suis sûr des centaines d'entre vous l'ont lu, c'est Les Cloches de Nagasaki. Bien oui, Les Cloches de Nagasaki. Ça met en scène, ça a été mis en scène d'ailleurs par une troupe de théâtre, puis on en a tiré un film. Alors quel but se propose le docteur Nagai dans ses écrits? C'est de donner un compte-rendu fidèle de l'explosion atomique, qui puisse fournir du matériel à la recherche en droit international, en médecine, en physique, en sciences industrielles. Il veut aider à rétablir la paix. paix, à la solidifier, puis pense que son étude de la radiologie, son expérience personnelle de l'explosion, puis des soins à donner aux victimes, tout ça, son séjour sur l'endroit du sinistre, font de ce travail une obligation. Et il s'y livre à corps perdu, c'est le cas de le dire. Revenons au docteur Takashi Nagai, ce grand japonais, héritier de la foi des vieux japonais convertis par Saint François-Xavier, héritier de la foi de Saint Paul dont il a pris le nom, Paul Nagai. Si quelqu'un a le droit, puis le devoir de parler en faveur de la paix, s'il y a quelqu'un qui a le droit de parler au nom des victimes de la bombe atomique, c'est bien ce médecin. Convaincu surtout d'une paix durable, convaincu aussi que cette paix ne peut se fonder que sur la diffusion de l'esprit d'amour du catholicisme, il considère comme sa vocation de croyant de propager le message de Jésus-Christ. Alors, des droits d'auteur de ces livres, qui sont écrits avec peine, c'est dur, il verse plus de 2 millions de yens, c'est-à-dire pas loin de 10 000 $ en contribution à la reconstruction de l'Église et des écoles au relèvement spirituel de ses concitoyens. Cette somme constitue la majeure partie de ce qui lui reste de son revenu après avoir payé les impôts. Car le docteur Nagai se fait un devoir de déclarer jusqu'au dernier cent, si on peut dire, au dernier yen, si vous voulez, parce que les taxes montent et montent, mais certains s'indignent de ce qu'on lui fasse payer de telles sommes. Puis il répond, et c'est très beau, écoutez ça, ces taxes sont ce qui permet la reconstruction du Japon. C'est pour cette reconstruction que je travaille, et c'est avec joie que je paie. Quel bonheur aujourd'hui d'avoir trouvé le moyen de collaborer un peu au travail de tous. Alors le sourire constant qui habite cet homme, et qui coule de ses lèvres, font de ce médecin l'un des grands médecins du XXe siècle. Car le sourire, c'est ce qu'il y a de plus tendre et de plus beau chez un chrétien. Un chrétien triste est un triste chrétien. Un saint triste est un triste saint. Son sourire, qui n'est pas celui du sourire découragé un peu, c'est pas le sourire de quelqu'un qui est content de lui-même, pas du tout. Ce sourire cache ses souffrances. Il a de l'humour aussi. En 1949, le ministre du Bien-être social décerne une louange à Nagai pour son livre intitulé « En laissant ses enfants ». La même année, on le propose au gouvernement pour citation à l'ordre du jour de toute la nation japonaise. Le 28 juin 1949, l'empereur lui-même lui rend visite, un entretien fort simple. Ça laisse le docteur Nagai plein d'admiration pour les connaissances scientifiques de son souverain, qui était très connu, l'empereur Hirohito, comme biologiste. Le 30 juin, deux jours plus tard, c'est le tour du cardinal Gilroy, qui est délégué du pape aux fêtes du 4e centenaire de l'arrivée de Saint François-Xavier comme missionnaire au Japon. 400 ans. 400 ans de catholicisme. Et pendant des siècles, sans prêtre. Le 1er juin 1950, un an plus tard, sur le vote du gouvernement, l'empereur lui fait présent d'une coupe d'argent, tandis que le premier ministre lui envoie une très belle lettre. Je vous la lis. Au milieu de dangers constants, s'est consacré corps et âme à l'étude de la médecine radiologique. Fut finalement atteint de leucémie. Sans rien perdre son ardeur au travail, contribua au progrès scientifique. En quoi il doit être proposé à tous comme modèle. Blessé par la bombe atomique et forcé de s'aliter, consacra toutes ses forces à la composition de plusieurs livres parmi lesquels les cloches de Nagasaki et en laissant ses enfants. Ce faisant, a fourni une contribution remarquable à l'éducation sociale de ses concitoyens. En foi de quoi, par la présente, nous le louons, et c'est signé du Premier ministre Shigeru Yoshida. Et le docteur Nagai a répondu, « Je ne suis qu'un serviteur inutile. Toute gloire appartient à la majesté divine. » En mars 1951, l'état du docteur s'aggrave considérablement. En plus de sa faiblesse extrême, il y a sa rate qui se dilate constamment. Elle gonfle son ventre, au point de l'empêcher même de se retourner sur son lit, sans l'aide de quelqu'un. Alors les globules blancs, au nombre de 7000 chez un homme normal, atteignent le chiffre énorme de 330 000 au lieu de 7000. Le docteur Nagai, qui a si longuement étudié les progrès de la maladie sur son propre corps, ne peut pas ne pas sentir que la fin approche. Cela ne l'empêche pas de donner libre cours à son humour habituel. À tel point que ceux qui le visitent ont peine à se figurer qu'il se trouve devant un mourant. Voilà un exemple. Comment mourir comme un vrai chrétien? En avril, il écrit son dernier livre. À peine achevé, une hémorragie se déclare, qui paralyse le bras entier jusqu'à la main. Alors là, le 28 avril de la même année 1951, une seconde hémorragie, le docteur Takashi Nagai, accablé par la douleur, se fait faire une piqûre de morphine, la première jusqu'ici. Alors on décide de le transporter à l'hôpital, et le matin du départ, le 30, il reçoit la très sainte communion. Il reçoit Jésus, qu'il a appris à aimer de tout son être. En dépit de la soif qui le brûle, il n'a rien voulu boire de toute la nuit. Vous savez que c'était le jeûne eucharistique, il fallait ne rien boire, ne rien manger depuis minuit. Évidemment, comme malade, ça lui aurait été permis de prendre un peu d'eau, de manger même un peu, mais non. Un vrai Japonais. Que c'est noble, un Japonais, quand c'est noble. À l'hôpital, le mal empire, et Nagai perd même connaissance, et revenu à lui, il dit à haute voix, « Jésus, Marie, Joseph. » Puis d'une voix à peine perceptible, il dit, « Je remets mon âme entre vos mains. » Alors une infirmière passe un crucifix à son fils Makoto, qui le tend à son père. Et le prenant de sa main gauche, seul valide, le docteur Nagai dit, « Priez. » Puis sa respiration s'arrête. Dans les mains, il tend un rosaire de perles noires reçu du pape et le crucifix que Makoto vient de lui donner. Et sur le visage de cet homme, maintenant décédé, naît un léger sourire, on dirait. 43 ans qu'il a seulement. La cause immédiate de sa mort, affaiblissement du cœur, dû à la leucémie. C'est ce cœur auquel le docteur Takashi Nagai a fait donner jusqu'à ses dernières forces. Bien ce cœur, il a cessé de battre. Et je crois qu'il est au ciel, cet homme. Il a tellement publié de belles choses, Takashi Nagai. Quel homme admirable. Héritier de Saint Paul Miki, hein, et ses compagnons, ces martyrs japonais qui furent tués en 1597. Il y a 400 ans, Paul Miki, c'est l'un des trois jésuites du groupe des 26 martyrs qui ont versé leur sang le 5 février 1597. Eh bien, voilà ce que ça donne que de verser son sang. Ça fait naître des docteurs Takashi Nagai et tant d'autres admirables japonais catholiques. Que je salue ceux qui m'écoutent, je sais qu'il y en a qui m'écoutent. Je les salue du fond de mon cœur, je suis attaché à eux depuis ma plus tendre enfance. Je lis au sujet de l'Église catholique japonaise depuis l'âge de 11-12 ans, je les aime beaucoup.